on ne peut pas débattre de ce point, mais je pense quand même on est dans un contexte français particulièrement saturé d'exemples de réussite, de mobilisation contre ces grosses machines, alors que dès qu'on se déplace un peu, c'est beaucoup moins évident. Et on le voit bien au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a, prenons l'exemple des perturbateurs endocriniens, nous on a l'impression que ça y est, c'est une cause qui a réussi et que ça s'est imposé de manière évidente. En réalité, on change d'échelle et il y a plus qu'une résistance en face. C'est pareil sur les new breeding techniques, l'édition génétique. Je peux t'assurer que si tu vas à Évry dans le Génopôle, tu n'as pas du tout le même discours que celui que nous on ramasse plus facilement, parce qu'on est avec des acteurs qui portent cette critique, qui renouvellent au fond la critique des OGM sur la mutagenèse. En fait. Et donc je pense qu'il y a vraiment c'est en balance et c'est pas du tout plié. Alors moi j'avais juste deux questions, mais bon, je vais les dire. Parce que finalement, ce que tu présentes comme épistémologie un peu émergente de tous ces processus, c'est quand même, pour moi, c'est une reformulation venant de plein d'endroits différents de la philosophie pragmatiste. C'est-à-dire qu'en gros, importance des conséquences, logique d'enquête émergente et redéfinissant le problème dans le processus, importance effectivement de la pluralité des points de vue, enfin tout ça, en fait, quand on lit Dewey, pour prendre le plus classique aujourd'hui. Donc là, ma question, c'est est-ce que finalement, dans ces milieux que tu fréquentes, il y a des références au pragmatisme? Moi, je pense à Christopher Hansel, qui est venu souvent à Paris ces dernières années, qui a développé une approche justement de comment les institutions changent, en introduisant progressivement cette philosophie pragmatiste, donc ils peuvent d'ailleurs légitimer en disant c'est nos philosophes du 19e siècle, hein, c'est Power, c'est James, c'est machin, donc en fait ils ont légitimité universitaire pour le faire à l'intérieur des institutions américaines. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est la tension entre le côté situé, que tu mets surtout en évidence à la fin de l'exposé, le côté, en fait, acteur pris, et puis le propos, bon, c'est une discussion que j'ai eu avec Olivier Goudard il y a longtemps, hein, sur les univers controversés. On ne perçoit rien si on n'a pas de métrologie. Donc il y a quand même encore une espèce de science séparée, je veux dire, de l'expérience des acteurs, puisque c'est elle qui va établir, en fait, la factualité qu'on ne pourrait pas établir si on entrait uniquement par ce bouillonnement d'acteurs qui vont partager des problèmes et essayer de les cadrer. Alors comment tu relis ces...
sur la première et le rapport à une philosophie pragmatiste, oui, je crois que j'assume qu'il y a, beaucoup de ça là-dedans. Ouais, que ça... revu, hein. Dewey revu.
Mais est-ce que c'est partagé par les acteurs, quoi? Cette vision-là.
Là, c'est une... Enfin, je pense qu'on est plus sur la grille de lecture de ça, la manière dont on en parle, que je trouve que, voilà, l'approche pragmatiste rend assez bien compte, pour moi, hein, voilà, là aussi, hein, c'est une clé de décryptage du bouillonnement, quoi, et de cette position, quand même, justement, de ceux qui... oui, alors, ça fait le lien avec la deuxième question, ceux qui désignent les choses, qui les catégorisent, qui les désignent, et qui leur accordent des valeurs, hein. Je trouve que c'est... Et du coup, c'est vrai que le lien... Alors derrière, bah oui, moi, si je dis qu'il y a des métrologies, ok, mais non, mais quand je parle après d'obésité, diabète, ou bien de changement climatique, et que je dis qu'il y a 40% des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités agricoles, l'usage des terres, les transports liés au... Oui, enfin, je veux dire, il y a bien ça. Enfin, je comprends pas forcément bien ta question. Enfin, c'est bouillonnement.
C'est une science qui fonctionne sur une épistémologie assez classique. T'as des publications, validées. Enfin, ce que je veux dire, c'est que.
Oui, mais.
Toi, t'as un peu durci le tableau de deux épistémologies qui se séparent, alors qu'elles se mixent en permanence.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ou alors, c'est parce que j'ai pas été clair. Mais je veux dire, si on parle des semences paysannes et des problèmes qu'ils ont rencontrés, c'est parce qu'ils sont opposés à une stabilisation, justement, à cette vision consistant à stabiliser la sélection sur des variétés reproductibles. Donc, il n'empêche que le problème existe. Le problème des semences paysannes n'existerait pas s'il n'y avait pas ce modèle-là. C'est là que alors, il y a quelque chose qu'on, où je ne comprends pas forcément bien ta question, quoi.
Mais, par exemple, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, c'est qu'effectivement, l'approche par l'action et par l'expérience, elle a besoin d'être nourrie. Ça pourrait être l'objet intermédiaire de Vinck. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cet objet intermédiaire, ça pourrait être cette métrologie. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit aux citoyens des informations sur l'état du changement climatique, etc.
Ouais,
et donc, on est bien. Il y en a un qui est produit avec une épistémologie traditionnelle, et puis par contre, l'objet du changement est l'appropriation sociale ou le social learning.
Pas forcément, justement, sur les concepts intermédiaires. Sur un des exemples sur lesquels on a travaillé, c'est le lac de Grandlieu. C'est ce que je disais là, qui a à la fois intérêt. Alors, intérêt des chasseurs, des pêcheurs, ça appartenait à Garlin, enjeu de protection de la nature, un élevage en bordure qui dont les vaches se nourrissent sur la manière dont l'eau monte et descend, donc des prairies qui deviennent accessibles aux vaches en plein été, vertes quand c'est sec partout, bref, combiner tout ça. La métrologie qui a été produite, c'est la hauteur du niveau d'eau. On est complètement là dans une approche... Justement, le point commun dans le bouillonnement de chacun. Mais derrière, je veux dire, les gens des Hérons les comptaient, l'évolution du niveau d'eau sur la pêche, parce que bon, en fonction de la quantité d'eau, c'est pas les mêmes types de poissons qui vont se développer, parce que c'est pas les mêmes types d'herbes aquatiques, et les pêcheurs, ils veulent des poissons blancs carnivores, et pas uniquement les poissons qui se contentent d'une eau croupie. Bon, enfin bref. Derrière ça, il y a de la métrologie et il y a un mélange justement de ces savoirs et qui sont partagés de manière asymétrique. N'empêche que si ces problèmes-là sortent du strict localisme et sont mis à des agendas, c'est quand même les agendas des grands univers controversés du climat. La mutagénèse, c'est aussi la même chose, je veux dire. Non, mais avec le discours sur est-ce qu'on fait ça différemment, enfin, on fait plus vite ce que la nature fait ou ce que les hommes font depuis le néolithique, quoi. Bon. Et je trouve qu'on est bien sur la contradiction de ces porteurs de discours-là. Ils sont à la fois pour nous dire que c'est le top du top de la technologie d'action sur le génome, et en même temps que ce qu'ils font, c'est pas différent que ce que fait la nature, simplement, ils vont un peu plus vite, quoi. On pourra en discuter, parce qu'effectivement... mais je trouve que ça met dans cette espèce de débat, justement.
Et, bon, ça, c'est un débat épistémologique, mais les scientifiques ont essayé, après les grands programmes Bloor et compagnie jusqu'à la Tour, de pénétrer le plus profond possible dans la fabrique de la science et finalement tombe dans un contexte historique où effectivement elle est remise en question par un tas de controverses et donc tout ce que j'ai expliqué. Le problème, c'est qu'en même temps, il y a un appel constamment à produire de la science et à la stabiliser pour précisément...
Voilà.
Et là, donc ce débat-là, c'est des incommensurabilités fondamentales. Et nous, on n'a pas à trancher, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Et ça a été l'erreur des scientifiques de pousser. D'ailleurs, il y a eu les querelles sur l'expertise avec... autour de ça. Et qui s'est traduit, notamment, il y a un très bel article qui arrive là sur la marche pour la science. Où les mêmes qui n'ont pas arrêté de dire, au fond, il y a une science queer, il y a une science machin, etc., se retrouvent à devoir défendre la science contre Trump. Très intéressant. Parce que du coup, là, tout à coup, faut la re-autonomiser, la Merton, quelque part, contre des forces hostiles qui vont effectivement ouvrir la postérité. En fait, on voit bien, etc. Donc on voit bien qu'il y a bien ce balancier, et c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est arriver à trouver la... Alors je ne sais pas si c'est une idée d'objet intermédiaire, en fait, qui va suffire, parce que c'est un peu fragile.
Ça parce que c'était...
On voit bien que c'est un peu fragile, parce que justement, il lui manque une construction politique.
Oui.
Et on voit bien qu'il y a un écart entre tout ce qui a été fait sur la manière de produire des savoirs, de mettre en question les connaissances, et de penser, en fait, le lien avec En gros, il faudrait réconcilier vraiment Latour et Boltanski, en fait, mais c'est impossible. C'est-à-dire le capitalisme d'un côté et tout. Alors, Pestre a essayé, mais je pense qu'il s'est planté vraiment, c'est mon avis. Parce que précisément, c'est très difficile de tenir les deux en même temps, c'est-à-dire de créditer les acteurs d'une capacité à poser le problème, à les construire, à les identifier, à les discuter, et de l'autre à des échelles, ce que Sébastien a essayé de dire aussi ce matin. En fait, de produire un changement politique qui ne modifie pas fondamentalement cette connaissance en la caricaturant, en la simplifiant, en la rendant totalement inopérante. Peut-être que le GIEC a réussi, mais je ne suis pas complètement sûr. Peut-être le seul cas.
Dans des groupes de prospective, il se passe ces processus d'apprentissage comme ça. C'est-à-dire que l'exercice de prospective partagé entre les gens change complètement le point de vue. Et ça, on l'a bien vécu avec Agrément. Ceci étant, voilà, ça concerne 30. 40 experts qu'on a fait bosser ensemble pendant 2 ans. Quoi. Après. D'accord.
On veut tout changer de monde.
Oui, peut-être sur cette discussion-là, et c'est en ça qu'elle rejoint bien le thème de la séance, c'est que les univers, enfin, la référence aux univers controversés de Godard, c'est quand même par rapport à la décision politique. C'est quand même le fait que la décision politique doit se faire malgré ces univers controversés.
C'est le principe donc, de précaution,
Pardon ?
C'était en défense du principe de précaution.
Voilà. Et donc, quand il fait appel, effectivement, à la dimension imperceptible de certaines données ou de certains... je ne pense pas qu'il évacue pour autant le fait... En tout cas, pas complètement, mais peut-être que ça va mieux en le disant, que finalement, une donnée métrologique... En tant que telle, est-ce que, tant qu'elle n'est pas socialisée, quelle est sa valeur dans la décision politique, quoi ? Et c'est peut-être ça qui est un problème avec la hauteur d'eau. Qu'est-ce que ça signifie ? Elle prend une valeur à partir du moment où on sait que le pêcheur, il a besoin d'un poisson blanc carnivore, etc., etc. Donc c'est peut-être là la limite, finalement, de cette imperceptibilité d'un certain nombre de données qui sont remises en cause quand même pas mal par les sciences participatives, etc., qui émergent quand même aujourd'hui par les lanceurs d'alerte, etc. Quoi.
Si je peux me permettre, vous oubliez, parce que demain j'ai un colloque sur le numérique, c'est pour ça que j'y pense, n'apparaît jamais quand même dans cette transformation le web, quoi, qui est quand même l'opérateur, alors invisibilisé en l'occurrence, c'est pas Google le web, hein, c'est beaucoup de choses. Quand même qui a changé complètement en fait la manière de mettre en circulation les problèmes, de les discuter et de les construire les métrologies. Bon, comment tu vois cette dimension du numérique dans tes objets ?
Je pense, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout traité. Je pense que c'est un changement complet des arènes. Parce que moi, en fait, je suis resté sur des arènes localisées. Et ce que ça change, c'est que les processus dont je parle là peuvent se situer, alors, un, sur des arènes multiples, sur des lieux multiples. Est-ce que c'est encore une arène ? C'est-à-dire au sens où est-ce qu'il peut en émerger quelque chose ? Et en plus de ça, les asymétries dont on parle, et la question que ça me posait, moi, sur les forums sociotechniques, je dis quel est le jeton d'entrée, etc. Mais alors là, on ne sait même plus à qui on a affaire, quoi. Je veux dire, le Francis avec qui j'échange, c'est qui c'est... Oui, c'est ça. C'est Francis Château-Renaud ou c'est le surnom que s'est donné le mec d'Areva ou... tu ne sais plus du tout. Enfin, je pense que ça change fondamentalement... la notion d'arène sociotechnique ou je sais pas, mais...
Peut-être qu'on fera le lien cet après-midi avec Yannick Pompala, parce que là, tu vas quand même discuter pas mal de micro-lieux, mais en même temps lié quand même à une fat city...
On fera le lien entre les échelles, oui.
Voilà, super. Bon, ben très bien.
Cet après-midi.
Est-ce qu'il y a une dernière question de la salle pour profiter de cette fenêtre de tir ?